Bonjour et bienvenue sur Guérir et Grandir, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la santé holistique. Je suis Lisa, nutrithérapeute, formatrice et votre guide dans cette aventure. Mon objectif est de vous ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde et plus authentique de l'humain et de la santé. Dans Guérir et Grandir, nous allons poursuivre et approfondir notre quête de vérité et de bien-être. Comme toujours, je partagerai avec vous des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, ainsi que des réflexions certainement plus intimes et personnelles. Cette émission est donc aussi le reflet de mon propre parcours, un voyage de guérison et de croissance, un chemin vers plus de conscience. Ensemble, nous explorons comment les pratiques ancestrales et les sciences modernes peuvent s'entrelacer pour former une approche où l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la nature est célébrée. Guérir et Grandir n'est donc pas seulement un podcast, c'est un espace où nous apprenons à être pleinement nous-mêmes et où nous découvrons comment atteindre notre plein potentiel. Je suis ravie de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Préparez-vous à une expérience enrichissante et je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. J'ai la joie de te retrouver dans cet épisode de Guérir et Grandir pour te parler de neuroatypie. Si j'ai envie de t'en parler, c'est parce que j'ai découvert ce terme il y a un petit peu plus d'un an lors d'une séance avec ma coach et ça m'a permis d'éclairer ma lanterne, de comprendre comment est-ce que je fonctionnais et surtout, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient concernées, beaucoup de personnes à différents degrés se reconnaissaient et ça pouvait être extrêmement aidant de comprendre que on n'a pas forcément un mode de fonctionnement comme tout le monde et c'est pour moi quelque chose qui peut vraiment être très bénéfique que ce soit dans notre manière de travailler, de créer, d'interagir avec les autres pour à la fois mieux se connaître et être aussi mieux compris par notre entourage. Donc l'idée n'est absolument pas de se dire « je suis différent, on est mieux, on est moins bien ». L'idée n'est pas là, il y a aujourd'hui beaucoup d'études et encore de découvertes dans les neurosciences qui permettent de mieux comprendre ce mode de fonctionnement. On le verra, on va avoir une interview avec une psychologue qui va beaucoup plus nous parler de ça en détail avec son expertise. Mais pour ma part, ce qui a été extrêmement aidant, c'est que je me suis rendu compte que oui, j'avais un fonctionnement en arborescence, c'est-à-dire que quand je dois concevoir quelque chose, quand je dois conceptualiser, créer, écrire un texte, penser à une formation, brainstormer, j'ai tout qui part en feu d'artifice. Parfois, quand je m'exprime, j'ai aussi tout qui vient en feu d'artifice, ce qui peut aussi faire que ça peut être difficile de me suivre parfois. Et c'est un effort majeur pour moi de synthétiser ma pensée et de vraiment l'organiser d'une certaine manière. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal parce que j'ai conscience que dans mon métier, ma pédagogie est ma force parce que je pense que d'aller en profondeur dans des concepts parfois compliqués pour les simplifier, c'est quelque chose que je sais faire. Peut-être grâce à cette neuroatypie, je sais que l'une de mes forces est de faire du lien entre plein de choses et de le transmettre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je dois synthétiser ma pensée, quand je dois écrire juste quelques lignes pour que ça rentre dans un post Instagram ou quand je dois rédiger un support de cours avec vraiment quelque chose qui est très scolaire, pour moi, c'est l'enfer. Ça me pompe une énergie pas possible et je déteste faire ça. En tout cas, c'est la chose que j'aime le moins faire. Et c'est pourquoi je me tourne de plus en plus aujourd'hui vers ce format de podcast, des formats live où j'ai de la place en fait pour m'exprimer, où j'ai de la place pour développer mon idée et où je ne me sens pas contenue dans quelque chose. Ce que j'ai pu découvrir aussi avec ce profil de neuroatypique, c'est que c'est des personnes qui peuvent être très exigeantes avant tout vis-à-vis d'elles-mêmes, très perfectionnistes, qui vont également avoir tendance parfois à avoir du mal à interagir avec les autres, peut-être parfois il va y avoir des incompréhensions dans la communication parce que puisqu'on a cette tendance à beaucoup parler, à passer du coq à l'âne, et bien potentiellement il y a des choses qu'on est persuadé d'avoir dites, puis l'autre va dire mais pas du tout, parce que oui, ce qui peut être très clair pour nous peut être perçu de manière très décousue pour l'autre et donc il va peut-être passer à côté de certaines informations. Et la personne neuroatypique peut aussi avoir cette tendance, d'autant plus si c'est une femme, à être très caméléon, à beaucoup s'adapter, à porter d'autant plus un masque social pour s'assurer de rentrer dans le moule. Parce qu'enfant, elle a bien compris qu'elle devait fonctionner comme tout le monde, pour avoir des bonnes notes, pour être récompensée, pour être aimée, etc., etc. Donc puisqu'on est de toute façon tous concernés, que ce soit nous-mêmes ou par rapport à des proches de notre entourage, et qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à qu'est-ce que c'est que la neuroatypie, qu'est-ce que ça englobe par rapport à d'autres formes de fonctionnement neurocognitif, que ce soit par exemple le TDAH, que ce soit les troubles de la sphère autistique, ou encore tout ce qui est les hyper ou tous les 10, eh bien j'ai décidé de faire ce podcast et de faire cette interview. Donc je te retrouve tout de suite pour aller parler plus en détail de la neuroatypie. Bonne écoute. Bonjour Marjorie, j'espère que tu vas bien.
Bonjour.
Alors écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes parce qu'en fait, j'ai été
diagnostiquée, on va dire, il y a un an en tant que neuroatypique, neurodivergent, ouais. Neuroatypique. Donc moi, c'est un terme que j'avais découvert à ce moment-là. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup d'éclaircissements sur mon mode de fonctionnement. Je me suis dit, mais oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui me lit. Et ça a donné, ça m'a permis en fait de comprendre beaucoup de choses de mon passé, de mon présent, me permettre d'entrevoir des choses différemment aussi pour mon futur. Et j'aimerais en fait qu'ensemble, on puisse présenter un peu plus de manière étayée qu'est-ce que c'est que la neuroatypie. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion parfois avec tout ce que ça prend en considération entre le TDA, TDAH, tout ce qui est hyper, tout ce qui est dyslexique, dysgraphique, toutes ces choses-là.
Donc, ouais.
Toutes choses. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous dire en quoi la neuroatypie est devenue une spécialité pour toi?
Oui, bien sûr. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Marjorie Bessaï. Alors, je suis psychopédagogue. Je suis aussi coach et je suis aussi thérapeute, donc à savoir, je suis nutrithérapeute aussi, naturopathe, aromathérapeute. Enfin bref, je fais pas mal de choses. Et je me suis spécialisée en neuroatypie. Pourquoi ? Je pense parce que je suis moi-même neuroatypique, donc je suis autiste. J'ai un TDAH, je suis ce qu'on appelle HPI, à haut potentiel. Et que j'ai un enfant donc il y a 7 ans que j'élève seule et qui lui aussi est autiste et a un TDAH. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis spécialisée. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Les autistes ont des intérêts spécifiques et moi mon intérêt spécifique. C'est vraiment tout ce qui touche aux neuroatypies, donc aux neuroatypies et à la parentalité, puisque je suis aussi psychopédagogue et que j'accompagne les parents, toujours pareil, d'enfants neuroatypiques. Voilà, en quelques mots. Bon, j'aurais envie de développer, mais voilà.
Oui, en effet, c'est à la fois ton quotidien, ta vie de femme, oui. Ta vie de mère.
Complètement.
Que, voilà, ça t'a permis de déjà comprendre toi comment tu fonctionnais, comment fonctionnait ton enfant, donc. C'est vrai qu'on parle souvent d'autisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de traits du spectre autistique. Ouais. Donc, ce serait ça. Et en fait, à différents degrés, on aurait des traits autistiques selon où on se situe. Par exemple, j'ai un cousin qui a été diagnostiqué autiste quand il était tout jeune. Donc, aujourd'hui, il a 25 ans. Mm-hmm. Mais voilà, c'est impossible pour lui d'avoir une vie sociale normale. Il est dans des espaces, des environnements qui sont spécialisés, etc. Mais en effet, je rencontre aussi beaucoup de personnes dites autistes avec qui j'interagis complètement normalement, oui. Mais qui ont dans cette sphère un degré en fait, oui. plus ou moins élevé. Donc, ce serait ça.
Oui, tout à fait. L'autisme, c'est un spectre, en fait. Et en fait, maintenant, alors ça a beaucoup évolué, hein, tout comme toutes les neuroatypies. Donc, je pense qu'on va parler de ce que sont les neuroatypies, mais ça a beaucoup évolué et ça évolue beaucoup. Et le TSA, donc trouble du spectre autistique, en fait, on va le classifier selon les besoins. Donc, on dit qu'il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ça va être plutôt en termes de besoins de soutien, que ce soit soutien matériel ou soutien humain, etc. On est autiste ou on ne l'est pas, en fait. Voilà.
D'accord, très bien. Merci pour la précision.
Ouais.
Et, alors, c'est quoi la neuroatypie? C'est quoi ce terme de neurodivergent, neuroatypique? Apparemment, dans les chiffres que j'ai pu trouver, ce serait quand même 15% de la population qui serait concernée. Ouais. Mais voilà, tu as certainement d'autres valeurs, tu as certainement plein de choses à me dire. Donc, voilà, c'est quoi ce truc?
Alors, neuroatypique, alors, il faut savoir que ce terme, il a été au début inventé par la population autiste. Donc, en fait, à la base, les neuroatypiques, ce sont les personnes qui sont autistes. Et ça, c'est ensuite... on l'a élargi, en fait, à toutes les personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. En fait, c'est une façon différente de cognitivement parlant, neurologiquement parlant, c'est être différent de la norme. Alors, ça comprend, donc, du coup... les neuroatypies, ça va comprendre les personnes qui sont à haut potentiel, qu'on a aussi appelé surdouées, qu'on appelait surdouées, etc. Donc, tous ces termes, en fait, ils ont énormément évolué. Ils changent tout le temps. Les termes, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc, il y a la haute potentialité, tu as le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tu as donc les troubles du spectre autistique. Donc, tout ça, ça fait partie, le TDAH et TSA, des troubles du neurodéveloppement, puisque ça, on va le retrouver aussi. Tu as aussi les troubles 10. On parle beaucoup d'hypersensibilité. Est-ce que c'est une neuroatypie? Est-ce que ça n'en est pas une? Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Consensus, donc généralement, quand on parle de neuroatypie, le consensus, il est fait de façon scientifique. Donc en fait, généralement, la définition, ça va être d'un point de vue scientifique. Tu as aussi le trouble, le syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, il y a beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Il y en a beaucoup plus que ce dont on parle, mais la plupart du temps, on parle du TSA, du TDAH et du haut potentiel. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent.
D'accord, ok.
Voilà.
Et donc, il y a tout ça qui est dedans. C'est vrai qu'en effet, donc, il y avait ces 10, donc dyslexie, dysgraphie.
Dyspraxie.
Juste pour préciser, parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes pour qui les diminutifs ne parlent pas trop, mais
oui.
L'hyperactivité, l'hypersensibilité, le côté voilà, surdoué, HPI,
ouais.
Mais voilà, qui est un terme qui a énormément évolué, exactement
oui.
Comme tu le dis. Et puis, ce que j'ai pu constater, moi, en fait, c'est ça qui m'a aussi amenée sur cette piste. En fait, c'est ma thérapeute qui est venue sur cette piste quand je lui racontais comment je fonctionnais.
Ouais.
C'était ce côté penser en arborescence, c'est-à-dire que je vais être sur quelque chose, je vais tirer la pelote, ça va m'amener deux choses différentes, trois choses différentes, quatre choses différentes. Et en fait, ma to-do list se transforme, c'est même pas une to-do list, mais c'est quand je suis dans un travail de recherche, quand je suis dans un travail de parce que je me forme ou parce que je m'intéresse à quelque chose, et ben en fait, c'est comme un onglet d'une page,
ouais.
Tu vois, ça boum, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et même ma manière de conceptualiser les choses, j'utilise beaucoup les mind maps, je suis gauchère
oui.
En plus, donc ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Et ce côté qui peut à la fois être à la fois très organisé, très désorganisé, c'est-à-dire que parfois c'est à travers le chaos que je vais chercher en fait toute ma créativité, que je réorganise les idées ensemble. Et en même temps, la pensée linéaire m'est extrêmement difficile. Par exemple, quand ce diagnostic a été posé, j'avais fait une story en disant mais en fait je comprends maintenant pourquoi quand je fais des supports de cours ça me pompe une énergie pas possible.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, de devoir synthétiser quelque chose en petit A, petit B, petit C,
ouais.
De devoir, pareil, pour un post Instagram, rassembler mes idées en quelques mots, c'est hyper challengeant. Parce que voilà, ça part dans tous les sens et ça demande à être canalisé. Et puis après, c'est vrai qu'en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui... En fait, avait beaucoup d'angoisse, plus en lien avec plus d'angoisse sociale, plus d'angoisse aussi avec parler pour rien, tu vois, tous les sujets où tu survoles un peu les choses. Moi, ça ne me crée pas des angoisses, mais c'est vrai que c'est un truc où j'ai une aversion totale par rapport à ce genre de choses. Je m'ennuie vite, bon, bref. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que ça peut donner du sens à des choses qui ne sont pas de l'ordre de HPI ou hyperactivité ou hypersensibilité qui peuvent être extrêmement handicapants ou des choses genre l'agoraphobie, ce genre de choses, mais sur des moyens de fonctionner, c'est vraiment venu éclairer ma lanterne. Donc,
oui.
Je ne sais pas si par rapport à ce que j'ai dit, il y a d'autres choses que tu connais dans les traits, dans les symptômes, le mot n'est pas super bien choisi, mais dans les caractéristiques.
On parle de symptômes, hein. On parle de symptômes. Ouais, on parle de symptômes.
Malade. Je vous jure qu'on n'est pas malade.
Alors, en fait, si tu veux... ce sont pas des maladies. Alors, ce sont des handicaps au sens où en fait, alors ce sont des handicaps. Là, je parle pas du tout de HPI. Il faut vraiment faire la différence entre le HPI et les troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH et le TSA, donc ce dont on va parler le plus souvent.
D'accord.
Parce qu'en fait, le HPI en lui-même, donc ça fait vraiment, il y a beaucoup d'études hein, qui sont faites, qui ont été faites là-dessus. Le HPI, c'est quelque chose qui est plutôt protecteur. C'est-à-dire que les gens qui sont au potentiel vont plutôt mieux s'en sortir. C'est pas ce qu'on a vu beaucoup, à savoir qu'une personne qui est HPI, elle va avoir, elle se sent pas bien dans sa peau, elle est angoissée, elle a des problématiques de communication, etc. Si vraiment il y a des problématiques comme ça, il faut aller consulter pour voir ce que c'est. C'est pas le HPI qui fait ça. C'est soit qu'il y a des troubles associés. Alors, généralement, quand on a des troubles du neurodéveloppement, il y a énormément de troubles associés, ce qu'on appelle des comorbidités. Et c'est peut-être parce que il y a un TDAH ou qu'il y a un TSA, mais c'est pas le HPI qui va faire qu'on se sent mal dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'un diagnostic d'autre chose parce qu'ils pensent que c'est pas par rapport au HPI qu'ils ont des problématiques, alors que le HPI, c'est plutôt protecteur. Il y a énormément de nouvelles études qui sont venues là-dessus. Ensuite, par rapport à ce que tu m'as dit, et tu vois, donc, moi, par... alors, ça, c'est un des symptômes, justement, le fait de perdre complètement le fil de là où on en était, donc c'est extrêmement compliqué, voilà.
La même. Alors, ouais. Attends, juste pour te remettre dans le contexte, c'était par rapport notamment à tout ce qui est, pour moi, la pensée en arborescence,
oui.
Le fait
alors,
d'être désorganisé, ouais. Organisé,
oui.
Tu vois, le côté... Alors,
toi, on t'a dit un petit peu à quoi ça correspondait, tout ça?
Alors, moi, on ne m'a pas forcément expliqué, c'est-à-dire à quoi ça correspondait. On m'a juste dit, OK, penser en arborescence, organiser, désorganiser. Après, en fait, on m'a posé quelques questions. On m'a dit, OK, ouais. En fait, ça s'appelle la neuroatypie. Mais,
d'accord.
Mais c'est plus en partant de mes symptômes
ouais.
Qu'on m'a donné l'information de la neuroatypie. Ça peut
alors,
être
okay.
Une neuroatypique et je vais t'expliquer tous les trucs.
D'accord.
Les choses ont été faites à l'envers.
Alors, parce que neuroatypie, c'est vraiment, ça englobe tout. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit précisé ce que c'est. Là, moi, quand tu me parles, alors, il faut savoir que la pensée en arborescence, la pensée, ce terme-là, il vient d'une psychologue française qui s'appelle Jeanne Siofachin, qui a inventé aussi le terme zèbre. Mais la pensée en arborescence, ça a été un peu, on va dire, entre guillemets, galvaudé, à savoir que tout le monde a une pensée en arborescence. Maintenant, chez les personnes neuroatypiques, ce qui va être vraiment différent, c'est l'intensité et la vitesse de traitement. C'est-à-dire que personne n'a juste une pensée linéaire, c'est-à-dire qu'il pense à un truc et qu'il déroule sa pensée comme ça, avec généralement tout le monde, même les neurotypiques, donc par opposition à neuroatypiques, vont avoir plein de pensées. Enfin, une pensée va emmener autre chose. Sauf que chez les personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent, ce que ça va faire, c'est que ça va aller tellement vite qu'on va avoir cette impression qu'il y en a des milliers en même temps et de plus s'y retrouver. C'est la vitesse de traitement, généralement. Souvent, les neuroatypiques, ce qu'on va voir comme caractéristique principale, c'est l'intensité, en fait. Il y a ce côté très intense, en fait, qui va se retrouver dans toutes les sphères de la vie. Après, là, dans ce que tu me dis, tu vois, du mal à s'organiser, le fait d'avoir tout ce flot de pensées incessant. Alors ça peut être une grosse problématique, d'avoir l'impression que son cerveau ne s'arrête jamais et d'être fatigué, en fait, hein, de ne pas arriver à s'endormir, ce genre de choses. Là, ça fait penser, par exemple, au TDAH, par exemple. Ça fait vraiment penser au TDAH. Le HPI, ça, voilà, ça va être... Ça va, il va, y a pas nécessairement toutes ces choses comme ça. Vraiment, quand... en fait, l'idée, c'est quand on a des problématiques liées à son fonctionnement, c'est vraiment d'aller voir s'il n'y a pas des troubles du neurodéveloppement. D'aller appuyer les premières choses qu'on nous a dites pour voir vraiment ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a des différences. Que ce soit, par exemple, avec le TDAH ou le TSA, ce sont tous les deux des troubles du neurodéveloppement, mais il va y avoir vraiment des différences. Et pourquoi c'est important? Parce que les stratégies qu'on va mettre en place vont être différentes. Et ne vont pas être les mêmes. Alors ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire, parce que dans la littérature, dans ce qu'on voit dans des bouquins, dans des articles, etc., on voit souvent les mêmes stratégies, des sortes d'espèces de listes. Alors, quand tu as un enfant TDAH, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Quand toi, tu es même TDAH, tu vas faire ci, ça, ça, ça. En fait, on est tous différents et tous différentes dans nos neuroatypies. Donc, c'est vraiment important d'avoir des prises en charge personnalisées.
D'accord. Parce que, en gros, je veux dire, si on
rit, ouais.
On peut... À partir du moment neuroatypique, ça veut dire qu'on a forcément un système neurologique et un fonctionnement, donc même au niveau cérébral, qui est différent.
Ouais.
Et donc, on va se retrouver avec, dans ce panel-là, soit du TDAH, soit de l'hypersensibilité, soit de la DIS, etc., etc., soit voilà, tout ce qui est un trouble du spectre autistique,
mmh.
Ou pas. Et en fait, on peut avoir soit toutes les coches, ou juste l'une d'entre elles, et l'idée, c'est d'aller en fait se faire accompagner, comprendre notre fonctionnement individuel selon les coches qu'on a. Mais tout ça oui. rentre dans la neuroatypie, on est d'accord.
En fait, tout ça, ça rentre dans la c'est ce qui fait ce qu'on appelle des neuroatypies ou des neurodivergences. En fait, il y a plusieurs termes, hein, neurodivergences, neuroatypies. Ça, on va dire que c'est le terme générique qui correspond à un fonctionnement cognitif différent de la norme.
Très bien.
Alors, c'est en ça d'ailleurs que c'est compliqué, puisqu'en fait, la norme, qu'est-ce que c'est que la norme, en fait ? Mais voilà, on va dire, ouais, qu'il y a une norme. Mais c'est vrai, il y a une norme. Et quand on fonctionne différemment, ben voilà, c'est un fonctionnement neuroatypique.
OK.
Et après, il y en a différents. Il y a différentes neuroatypies.
Ouais, c'est ça. Alors, quelles sont les différentes formes de neuroatypie ? Juste pour préciser, pour que ce soit très clair pour les gens, est-ce que les différentes formes de neuroatypie, c'est ce qu'on vient de dire ? Tu as le titre neuroatypie et puis sous-titre 10, hyper, etc., etc. Ou est-ce que dans le titre, il y a différents types ?
Non, c'est vraiment ce dont on a parlé, c'est-à-dire tu vas avoir... Alors, il y en a plusieurs, hein, mais celles dont on parle principalement, qu'on recherche d'ailleurs le plus souvent, c'est vraiment le TDAH, le TSA, les troubles 10. Mais en fait, les neuroatypies, après, les fonctionnements cognitifs différents, il y en a plusieurs. Hein, tu peux avoir, par exemple... Tout ce qui touche, par exemple, la santé mentale, les maladies mentales, en fait, qui sont des fonctionnements neurologiques différents aussi. Donc, vraiment, si tu veux, tous ces termes, en fait, c'est pas des termes qui sont très anciens, et c'est des termes qui évoluent avec les personnes qui sont touchées. Comme je l'ai dit, tu vois, tout à l'heure, par exemple, neuroatypique, à la base, c'est vraiment la population... les groupes de personnes autistes qui ont créé ce terme. Et ensuite, ça s'est étendu. Mais vraiment, si on parle, par exemple, la neurodiversité, parce que ça, on l'entend aussi, je pense que tu as déjà dû l'entendre, la neurodiversité, ça inclut les personnes qui ont un fonctionnement normal, un fonctionnement typique, les neurotypiques. Puisqu'en fait, c'est la diversité des fonctionnements neurologiques. Donc, c'est tous les fonctionnements neurologiques. Après, neuroatypie, c'est vraiment ceux qui sont différents de la norme.
D'accord. OK. Alors, quels sont peut-être les conseils, alors peut-être basés sur des exemples que tu as pu vivre, ou alors les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui se reconnaissent ? C'est-à-dire, peut-être déjà là, est-ce qu'il y a quelques critères qui peuvent mettre nos auditeurs sur la piste de « Tiens, est-ce que je suis neurotypique, mais avec une forme de différence ?» Qu'est-ce qui fait que je franchis, d'une certaine manière, que je passe du groupe neurotypique à neuroatypique ? Qu'est-ce qui peut nous permettre de reconnaître ça ? Et puis après, dans un second temps, on pourra peut-être voir comment on vit avec ça au quotidien et comment est-ce qu'on peut en tirer une force plutôt que voir que la faiblesse.
Alors, moi, ce que je pense qui est important là, et que ce soit en tant que parent qu'en tant qu'adulte, c'est de se faire confiance déjà. Généralement, on le voit... La plupart des gens, quand ils en parlent, ils savent qu'ils fonctionnent différemment, ils le voient. Il y a vraiment ce côté « je me sens différente ». Et c'est pas... alors, je sais, il y a plein de gens qui disent « oui, tout le monde est différent, c'est un effet de mode ». C'est pas vrai du tout, en fait. On le sent vraiment quand on fonctionne différemment. On le voit dans son quotidien. On le voit parce qu'au bout d'un moment, y a des conséquences. Soit on se sent rejeté, soit on est seul. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, vraiment. On voit bien qu'on fonctionne pas comme la majorité des gens à l'école. On le voit très vite les enfants qui vont pas fonctionner comme les autres. Alors ça peut être de façon, par exemple pour le HPI, d'avoir de très très bons résultats, mais tous les HPI n'ont pas de très bons résultats. En tout cas, on voit que on fonctionne différemment. Généralement, moi je trouve que c'est ça en fait qui met un peu la puce à l'oreille. Alors, après, il y a le traitement des informations qui sont différentes aussi. Il y a des gens qui vont avoir plus de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Moi, j'aime plutôt utiliser le terme d'hypersensorialité. Donc là, on va vraiment parler des cinq sens. C'est des personnes qui vont, être très sensibles au bruit, plus que les autres personnes. Et ça... On le voit, en fait. On le voit très vite. C'est des personnes qui vont être fatiguées, qui ne vont pas supporter la lumière. Alors, malheureusement, il y en a qui ont les cinq sens de toucher, donc c'est compliqué. Mais en fait, on va très vite se rendre compte qu'on fonctionne différemment. Même si parfois, on ne s'en est pas, entre guillemets, rendu compte notre entourage ne s'en est pas rendu compte quand on était enfant. Donc ça, c'est une vraie problématique, hein, parce que, et c'est notamment vrai pour les femmes, parce que les neuroatypies au féminin, c'est beaucoup plus compliqué et on le diagnostique beaucoup plus difficilement que quand on est un homme. Il y a énormément d'études hein, qui sont faites là-dessus. Enfin, énormément, non, c'est pas vrai. Pas énormément, beaucoup moins que ce que j'aimerais. Mais on y vient. Et donc, du coup, voilà, moi, je dirais cette sensation d'être différent, tout simplement, en fait. Je pense que c'est le truc au début.
Ça fait hyper sens aussi par rapport au féminin masculin, parce que je trouve, c'est ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'on a cette capacité naturelle à s'adapter, à se suradapter en tant que femme.
Ouais.
Des raisons hein, qui sont propres voilà, à notre énergie, à notre sexe, à comment fonctionne notre société. Et en fait, j'ai pu aussi, après, quand on va au-delà, c'est selon, alors certains qui sont dans l'astrologie ou autres vont dire, ah ben, aussi selon le signe, etc. Et ça, clairement, je l'ai vu. C'est-à-dire que cette hyper-adaptabilité au monde dans lequel on vit, à notre entourage constamment, fait qu'en fait, eh ben, on se désensibilise presque, ou en tout cas, on encaisse plus.
On se conforme.
Exactement.
Ouais, on se conforme
mais
beaucoup.
Du coup, c'est ce qui fait, tu vois, je lisais par exemple récemment un article sur les femmes, et donc là, c'était vraiment plus les femmes HPI, en l'occurrence,
ouais. Là
qui étaient données, et des fois, la difficulté qu'elles pouvaient avoir dans leur relation, qu'elles soient amicales ou amoureuses, c'était vraiment plus sur la sphère personnelle, et ça disait, ben voilà, cette capacité à absorber, s'adapter sans cesse, parce que justement, il y a une pensée très rapide, il y a un besoin d'être nourri intellectuellement qui est beaucoup plus grand. C'est des femmes qui sont perfectionnistes, exigeantes, et en fait, au bout d'un moment aussi, parce qu'elles s'adaptent à leur environnement, parce qu'elles vont baisser d'une certaine manière leurs exigences, ben en fait, au bout d'un moment, ça explose, parce que c'est plus du tout dans leur manière de fonctionner. Et je me suis pas reconnue là-dedans, dans le côté « je prends, puis j'explose », ou peut-être il y a quelques années de ça, aujourd'hui, moi, mais par contre, ça m'a énormément parlé, en fait. Et je suis convaincue qu'il y a un paquet de femmes qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans,
et où,
en effet, c'est pas du tout diagnostiqué, parce qu'on s'est conformé. On s'est conformé, et je trouve que ça fait
exactement.
Bien, en fait. Ça fait du bien, parce que quand on le conscientise, du coup, on a une meilleure connaissance de soi, et on peut davantage... mettre de la conscience dessus, l'atténuer, l'exprimer à l'autre, le partager, que ce soit à nos amis, à notre conjoint, notre conjointe, peu importe le type de relation amoureuse qu'on a. Et ça, je trouve que c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. C'est que moi, je me suis rendu compte que dans mon métier, dans ma vie, ça m'a permis de comprendre mon fonctionnement, de le communiquer et de beaucoup mieux vivre avec et d'en tirer vraiment les forces, en fait.
Oui, en fait... Il y a vraiment une différence selon le genre hein, par rapport au traitement des neuroatypies. Et on s'aperçoit que alors déjà, il y a un truc très simple, c'est qu'en fait, toutes les études, elles sont faites par des hommes généralement, enfin pas toutes, j'exagère là, enfin je généralise. C'est pas toutes les études, mais la plupart des études par le passé ont été faites par des hommes sur des hommes. C'est la même chose pour les analyses sanguines, etc. Hein. Les modèles qu'on a, ce sont les normes, ce sont les hommes. Du coup, c'est pour ça que les neuroatypies au féminin sont beaucoup moins connues. Et en plus, il y a l'impact aussi du genre. C'est-à-dire que quand on est fille, eh bien, on se conforme beaucoup plus parce que, par exemple, dans le cas du TDAH, clairement, les symptômes sont souvent différents parce qu'une petite fille, on va lui demander de ne pas faire de bruit, d'être calme, d'être tranquille, etc. Donc du coup, ça ne veut pas dire que ces symptômes ne sont pas là, c'est juste qu'en fait, elle les a réfrénés, elle les a camouflés, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors ce que j'observe moi avec les personnes que j'accompagne et dans ce que j'ai lu, etc., c'est que souvent, Il y a un âge assez charnière et une situation assez charnière, c'est 40 ans à peu près, vers 40 ans. C'est-à-dire une personne qui s'est camouflée toute sa vie, vers 40 ans, c'est plus possible en fait. C'est-à-dire que je sais pas si on a un quota de en fait, c'est de la, moi j'appelle ça de la suradaptation. Souvent on voit écrit adaptation, mais pourquoi, pour moi c'est de la suradaptation. Et si tu veux, il y a aussi le fait, quand on a des enfants aussi. Et c'est vraiment, il y a vraiment ces caps-là où c'est plus possible. Il y a ça, et généralement, d'ailleurs, ces femmes Souvent, elles font des burn-out parce qu'en fait, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus et c'est leur prise de conscience. Et ça, c'est... Il y a beaucoup, de plus en plus de femmes qui se font diagnostiquer maintenant, tardivement, parce que justement, elles ont essayé, elles se sont camouflées toute leur vie, elles ont l'impression d'avoir... elles ont des sensations même d'avoir joué un rôle, en fait. D'avoir joué un rôle toute leur vie, d'avoir... Ce n'était pas vraiment elles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le masking, en fait. Porter un masque, le masking, qui entre en jeu. Donc, le masking, c'est quelque chose de relativement normal dans les relations sociales. Enfin, normal, c'est-à-dire dans le sens où on va... on a besoin, on n'est pas... on a besoin, dans certaines situations, de entre guillemets, jouer un rôle, c'est-à-dire de... Voilà, on ne va pas être avec son pote comme on va être dans une relation professionnelle. Mais... Poussé à l'outrance quand on est neuroatypique, on va avoir tendance à avoir un masking. Le masking, c'est surtout pour le TSA dont on en parle, tout le temps. Et on arrive à plus pouvoir à un moment donné. C'est plus possible. Et là, on explose.
Ouais, alors c'est... Merci d'en parler parce qu'en effet, c'est quelque chose où, dans les petites recherches que j'ai pu faire, c'était souvent ce qui ressortait aussi, cette capacité complètement inconsciente parce que c'est un programme de l'enfance, en fait, hein. Comme tu dis très justement, qui fait que on va porter un masque social, qui va faire que parce qu'on est dans cette suradaptation et parce qu'en fait on a envie de pouvoir connecter avec les autres, on va s'adapter, mais c'est ce qui fait qu'on est dans ce personnage. Et tu vois, la question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut conscientiser ça, comment est-ce qu'on peut se libérer de ça. En fait, je trouve que c'est hyper délicat de se dire en quoi là il y a un masque qui s'active, comment est-ce qu'on peut l'observer. Quel type de masque ça peut être, tu vois, je sais pas si tu as des informations à nous donner là-dessus ou pas, tu vois, du genre oui, on observe souvent que la personne va prendre ce comportement-là, tu vois, par exemple, et puis comment en sortir, comment être plus en capacité d'être soi en toutes circonstances.
Alors, c'est compliqué de répondre parce qu'en fait c'est différent quand même selon les personnes. Un des premiers conseils, c'est vraiment de consulter, en fait. De consulter quand on a un doute. Maintenant, il y a énormément d'informations. Donc, vraiment, quand on sent qu'on perd pied, qu'on n'y arrive plus, consulter. Alors, généralement, ce sont des médecins pour faire les diagnostics. Alors, les diagnostics, c'est pour les troubles du neurodéveloppement. Ce n'est pas pour le HPI. Le HPI, ce sont des tests de QI, mais... Les tests de QI, pour moi, ça veut pas tout dire, puisque, enfin voilà, ce sont des échelles très normatives, etc. Mais c'est généralement chez des psychologues et des neuropsies. Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement, TDAH, TSA, ce sont des diagnostics médicaux et cliniques, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des symptômes. Mais en fait, vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, quand vous sentez que ça ne va pas, quoi, que vous ne fonctionnez pas bien. Alors, il y a des symptômes physiques, hein, souvent. Hein. Il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir l'alimentation, il peut y avoir après tous les symptômes psychologiques, l'anxiété, un mal-être, il peut y avoir des burn-out, etc. Mais vraiment d'aller consulter et d'en parler, de s'informer par soi-même aussi, je pense que c'est important. Parce que malheureusement, en France, on accuse beaucoup de retard par rapport à tout ce qui a trait aux neuroatypies, et notamment les neuroatypies au féminin. J'espère que ça va changer. Je pense que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont vraiment bien spécialisés. Mais donc voilà, vraiment, dans un premier temps, s'informer. Le souci, c'est que souvent, on nous fait un peu douter autour de nous. On nous fait douter parce qu'il y a des personnes qui disent mais non, tout le monde est comme ça, etc. Mais voilà, et essayer d'aller rechercher de l'info, en parler autour de soi, des personnes de confiance. Dans un premier temps, vraiment ça, je pense, vraiment.
Et concernant, tu vois, ce que tu disais par rapport les choses qui peuvent montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-delà de ce que j'ai dit précédemment sur penser en arborescence, etc. Tu parlais du sommeil, donc voilà, j'imagine insomnie, difficulté à s'endormir, le vélo qui tourne, etc. Tu parlais de la nutrition, qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors, par exemple, alors là, on va aller du côté des troubles associés, donc des comorbidités. Donc, les comorbidités, ce sont vraiment les troubles que l'on rencontre très souvent quand il y a du TDAH, quand il y a un TSA, etc. Par exemple, l'alimentation, ça peut être des TCA. Donc, troubles du comportement alimentaire. Il faut voir qu'il y a énormément de personnes, notamment des femmes, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont un TDAH. En fait, alors, ça ne veut pas dire que quand on a un DTCA, on a nécessairement un TDAH et vice-versa, mais ce sont des troubles qui se rencontrent très souvent. Il y a l'anxiété aussi. L'anxiété, donc, par exemple, le trouble anxieux généralisé. Alors, juste un petit aparté. Quand il y a un diagnostic qui est fait, pendant le diagnostic de ces troubles-là, des troubles du neurodéveloppement, il y a vraiment un diagnostic qui est différentiel. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller chercher si, par exemple, il n'y a pas un trouble anxieux généralisé avant d'aller voir s'il y a d'autres troubles. Mais les troubles peuvent cohabiter. Pareil avec le HPI. Oui, pardon,
alors, est-ce que tu peux nous dire, quoi un trouble, justement, anxieux généralisé, comment ça se manifeste?
De l'anxiété. Une anxiété, pas des petites anxiétés, mais vraiment qui est extrêmement présente avec une intensité vraiment très, très, très importante.
D'accord.
Voilà. Mais on peut avoir ça et un TDAH, par exemple. Ça se retrouve très souvent. Donc, les TCA, ça se retrouve très souvent. Chez les hommes, ça va beaucoup être des troubles de l'addiction. Il va y avoir beaucoup d'addictions, plutôt dans le TDAH, moins dans le TSA. Il y a vraiment des choses assez précises. Hein. Une personne qui est au potentiel, c'est pas parce qu'elle va être au potentiel qu'elle va avoir, par exemple, des problématiques de dépression ou de troubles anxieux, mais ça peut être des troubles associés. Mais le HPI ne va pas spécifiquement donner ça. Donc, c'est ça qui est quand même différent avec les troubles du neurodéveloppement. Donc, il peut y avoir des dépressions. Il peut y avoir... il faut savoir que les femmes, elles sont souvent diagnostiquées dépressives, borderline aussi. Donc, je ne sais pas si... c'est un terme qui est... On ne parle pas énormément en France du trouble borderline. Mais ça, il y a énormément de diagnostics de troubles borderline pour les femmes à la place d'un TDAH. Il y a aussi la bipolarité. Donc, on peut confondre aussi la bipolarité avec le TDAH. D'ailleurs, quand on fait un diagnostic de TDAH, le ou la praticienne va aller voir si c'est pas d'abord de la bipolarité. Il y a vraiment, le diagnostic, il est vraiment important, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué, par exemple, dans le cas du TDAH, de, entre guillemets, s'auto-diagnostiquer, même si je pense, pour ma part, c'est vraiment à titre personnel, qu'en lisant, etc., on arrive à voir quand même vraiment des choses. D'ailleurs, on aiguille aussi souvent les praticiens. Mais c'est vraiment important d'aller... pour en revenir à ce que tu disais, donc l'alimentation, il peut y avoir des TCA. Concernant l'alimentation, dans le cadre de l'autisme, souvent, il peut y avoir des problématiques de sélectivité alimentaire. Des troubles de l'oralité, donc ça chez les enfants, des troubles de l'oralité, ça peut mettre sur la piste. Ça ne veut pas dire que l'enfant est autiste, mais ça peut mettre sur la piste. En tout cas, on va dire une approche de l'alimentation toujours pareil, différente en fait. En fait, dans tous ces diagnostics, ce qui va mettre la puce à l'oreille, c'est cette différence. Voilà, c'est que c'est différent de ce qu'on voit d'habitude.
Et oui, c'est le mot qui me venait aussi.
C'est ça.
Cette notion de différence.
Oui, le sommeil, c'est différent. Les enfants, par exemple, les enfants neuroatypiques, ben, ça va être plus compliqué, ça va être plus intense. Des enfants qui ne vont pas avoir envie de se coucher. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, en fait. Hein, mais le sommeil est compliqué plus tard. Alors, il y a des raisons physiologiques aussi. Il y a eu des études qui ont été menées qui montrent qu'en fait, la mélatonine, donc le taux de mélatonine, donc ce qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil, va être moins sécrétée. Donc, il va y avoir ces problématiques de rythme circadien, de rythme jour-nuit, qui vont être présents, qui peuvent être présents, parce que ce n'est pas chez tout le monde non plus, et donc avoir ces problématiques de sommeil, donc des personnes qui vont plutôt s'endormir plus tard. Donc voilà, tout ça, les insomnies par le fait, cette pensée-là, tout le temps, ça c'est très présent, hein, ce côté-là, là, avoir cette impression qu'on est toujours en train de penser, d'avoir des pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça c'est un signe, souvent quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille.
Est-ce que tu as dit quelque chose que je trouve hyper intéressant, parce que j'avais une discussion avec des amis par rapport à ça, c'est cette difficulté à aller se coucher malgré la fatigue, c'est-à-dire une personne... Alors après, on est tous entrepreneurs dans la sphère, donc forcément, ça ne va pas. Mais est-ce que, voilà, tu as question. Est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille par rapport à une neuroatypie, parce qu'il y a de la fatigue, la personne, elle se sent épuisée, mais il y a une espèce de « je ne peux pas aller dormir », comme s'il y avait encore besoin d'aller d'être stimulée par on ne sait quoi, faire quelque chose, regarder quelque chose, écouter quelque chose, faire quelque chose.
Ouais.
Est-ce que c'est propre à cette neuroatypie ou est-ce que non ? Ça peut plus être quelque chose chez tout le monde, mais qui est en lien avec une hyperactivité, qu'elle soit professionnelle ou autre.
Alors, oui, ça peut toucher potentiellement, de toute façon, tous les symptômes, voilà, on peut les avoir, même si on n'a pas, là, en l'occurrence, moi, ça me fait penser plus à du TDAH. Dans le TDAH, il peut y avoir ça, en effet. Ce côté, alors, c'est qu'en fait, dans le TDAH, et aussi dans le TSA, mais pas de la même façon. Donc, il faudrait vraiment faire un truc spécifique à ça, à chaque trouble, pour pouvoir expliquer. Mais il va y avoir ce qu'on appelle un trouble des fonctions exécutives. Il va y avoir parfois un manque de flexibilité cognitive, etc. Et vraiment, ça peut faire penser à ça. Donc, ce côté ne pas avoir envie d'aller se coucher. Alors, ça peut être... Il y a plusieurs raisons. Ça peut être aussi parce qu'on est dans quelque chose... en train de faire quelque chose et que donc ça peut être de l'hyperfocus par exemple.
Oui, bien sûr.
Dans le TDAH rencontré, ça peut être parce qu'on a des angoisses aussi à aller se coucher. Ça peut être parce que, comme on peut voir dans le TSA, parce qu'on a du mal à changer d'activité. Donc ça peut être voilà des angoisses aussi parce que des angoisses de vie, parce que on veut profiter à fond, on a l'impression qu'on va pas avoir le temps, etc. Mais oui, ça peut être vraiment, ça peut être tout ça et ça peut en effet faire penser à des neuroatypies. En effet. Et en effet, ça peut être alors l'hyperactivité, une hyperactivité cognitive, donc avoir envie de faire un max de choses. Ça peut être parce qu'on ressent pas la fatigue non plus. Donc, il y a vraiment plein de choses, mais en effet, ça fait penser quand même à des neuroatypies. Mais on peut l'avoir autrement, mais si tu veux, si on n'a que ça, bon, potentiellement, ça ne va pas... voilà. En fait, c'est ça plutôt. C'est plus, est-ce qu'on a plein de symptômes qui vont nous poser des problèmes ? D'ailleurs, le diagnostic, il repose là-dessus. Si, même si tu as plein de symptômes, que tu n'as pas de problématique avec ça, potentiellement, tu ne vas pas avoir de diagnostic. Ça paraît bizarre, mais...
Non, mais c'est
ouais.
ça fait hyper sens, en fait.
Ouais,
pourquoi
c'est
aller,
ça.
Remuer les choses.
Complètement.
Ça bien, quoi. Enfin,
c'est ça.
On est bien d'accord. Et moi, c'est vrai qu'en fait, à la base, je ne voyais pas le problème, tu vois, parce que je pense aussi sur adaptabilité.
Ouais, alors c'est ça. Ouais. C'est ce que j'allais te dire après.
Par contre, quand j'ai commencé quand on m'a dit à ça, je me suis dit, ah, mais attends, mais du coup, en fait, je comprends plein de trucs. Et j'ai vraiment revu des scènes du passé. J'ai vraiment vu des moments de ma vie plus intenses, comment je fonctionnais, etc. etc. Et c'est vrai que du coup, bah, après, tu as cette curiosité en disant, mais en fait, des fois, tu as la sensation que tout le monde fonctionne comme ça, alors que pas du tout, en fait.
Non, c'est ça.
Je l'ai vu dans mon cercle d'amis, je l'ai vu dans mes relations, je l'ai vu dans mes réunions. Tu sais, ce côté où en fait, tu as la solution A, la solution B, et tu as la majorité qui est sur la solution B, toi, tu es déjà à la F, en fait.
C'est ça.
Quand tu essaies d'expliquer la F, tu passes pour une tarée.
Ouais.
On dit, bah attends, il y a ça à faire avant. Bah ouais, mais non, en fait, tu sais que non, tu sais que ça va pas le faire.
Ouais.
Hyper difficile. C'est hyper difficile parce que je trouve qu'il y a un petit peu parfois, surtout quand t'es avec des personnes qui fonctionnent pas comme toi, parce que le but c'est ça aussi, je pense. Là, je parle vraiment même pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont la chance de choisir avec qui ils travaillent, c'est en fait de trouver aussi les personnes avec qui ça fit, enfin, ça va vite, en
ouais.
fait, ça avance. Et c'est juste, c'est pas ça va vite, ça va moins vite, c'est juste qu'il fonctionne comme toi. Et même si on est tous différents, ça s'imbrique mieux, en fait, c'est plus facile. Et ça, je l'ai vu même dans mon activité professionnelle. Donc, y a tout ça. Et en fait, sauf si bien sûr, il y a quelque chose sur lequel tu veux rebondir avant, Moi, la question qui suit, ce serait, OK, maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut tirer des forces de ça? Quels sont peut-être les rituels? Quels sont peut-être les choses qui peuvent nous aider au quotidien pour nous faciliter la vie, en fait, pour à la fois, en effet, rendre nos interactions, rendre notre productivité, notre efficacité, rendre notre capacité à créer, et puis aussi notre bien-être, en fait, plus, tu vois, notre vie plus agréable en intégrant, en fait, toute notre spécificité.
Oui. Alors, en fait, donc, moi, pour moi, vraiment, ce qui est important, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde et que j'accompagne les gens. Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de la connaissance de soi. C'est vraiment de savoir, alors déjà, de poser des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est. Je pense que c'est une bonne étape. J'ai pas toujours eu cet avis comme aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me disais, bon, peu importe tout compte fait. Mais en fait, peu importe qu'on ait un diagnostic ou pas. Ce dont je me rends compte maintenant, c'est que on vit dans un monde, en tant que neuroatypique, dans un monde de neurotypique. Malheureusement, on vit dans un système. Donc moi, je travaille aussi de façon systémique, l'impact des différents systèmes, des écosystèmes, etc. Et en fait, malheureusement, quand on n'a pas de diagnostic, c'est compliqué dans notre système. Si on était dans une société inclusive, franchement, je dirais pas aux gens de se faire diagnostiquer. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. On en est vraiment très loin, notamment en France. Et du coup, donc, je dirais déjà, aller voir quelqu'un pour parler de ça, se faire diagnostiquer éventuellement. Ensuite, vraiment, la connaissance de soi et la connaissance des troubles. Pour moi, c'est vraiment les deux choses, c'est la base. Donc, psychoéducation, se questionner sur le trouble, voir comment ça se manifeste chez soi. Pas les longues listes qu'on voit sur Internet, mais soi-même. Voilà, moi, j'ai ça parce qu'on n'a pas... c'est pas une liste où on doit cocher tout. En fait, il y a vraiment des différences selon les personnes parce qu'en fait, ce qui est important dans ces troubles, ce qui a un gros impact, c'est son écosystème, le contexte dans lequel on vit. Une personne avec... un enfant avec un TDAH, par exemple, avec... Bah, moi, je prends le cas de mon fils et de moi. Moi, mes parents ne savaient pas du tout, j'ai pas du tout été accompagnée. Et mon fils, par contre, bah voilà, moi je me suis spécialisée là-dedans. Il a vraiment un environnement qui est complètement adapté, en tout cas du mieux que je peux. Et du coup, évidemment qu'il y a une différence. Et il va pas avoir les mêmes besoins qu'un enfant qui va pas du tout être dans ce cas-là. Donc il va pas à l'école, etc. Il est en instruction en famille. Donc voilà, il n'y a pas les mêmes symptômes en fait. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment la base, la connaissance de soi, la psychoéducation. Et pas comme je le vois, donc ça c'est mon avis, hein. Pas comme je le vois très 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 souvent, mettre en place tout de suite des outils. Alors pour moi, je les appelle les outils pansements, parce qu'en fait c'est mettre un pansement sur une jambe cassée, c'est vraiment, ça explose à un moment donné. Si je prends le cas des entrepreneurs et entrepreneuses, comme nous, si on recherche tout de suite la productivité, etc. Donc, d'autant plus qu'on est dans un monde où c'est ce qui est recherché en premier lieu. En fait, on court au burn-out. Vraiment. Et je pense que vraiment, ça, il faut vraiment être vigilant avec ça. Et donc, en fait, si on va rechercher en premier lieu, parce que je vois énormément de programmes basés sur ça, comment faire pour ne plus procrastiner en 21 jours, comment faire pour s'organiser, etc. Dès le début, hein, je pense que c'est intéressant après. En fait, pour moi, c'est vraiment aller à l'épuisement. Parce qu'en fait, on va tous ces programmes, par exemple, ces accompagnements, ils sont basés sur une norme, la norme des neurotypiques. Et vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est que on peut pas faire rentrer un rond dans un carré. Si tu es neurotypique, tu es neurotypique toute ta vie, tu ne deviendras pas neuroatypique. Si tu es neuroatypique, pardon, tu vas pas devenir neurotypique. C'est impossible. C'est pas possible. Tu vas pouvoir aménager des choses, tu vas pouvoir te conformer à un certain niveau, t'adapter, mais dès que tu passes dans la suradaptation, ben c'est à mon sens catastrophique. Et c'est ce qu'on demande souvent dans notre société, notamment aux enfants. Et c'est ce qu'on voilà, c'est ce que certainement tu as dû vivre, c'est ce que j'ai vécu moi. Et en fait, le réveil, ça peut être très difficile après. Donc voilà, pour répondre brièvement à ta question, connaissance de soi, psychopédagogie et éducation, pardon.
Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà. Tu vois, typiquement, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à cette notion de productivité, d'efficacité, de non-procrastination, parce que je suis passée aussi à travers ça. Et en fait, je pense qu'il y a eu à la fois un travail de dépouillement personnel corrélé à un travail de connaissance de soi, notamment avec ces différents accompagnements que j'ai pu faire, où à la fois, il y avait des choses qui étaient plus spirituelles, plus énergétiques, plus de l'ordre du dépouillement, hein, comme j'aime l'appeler, que en parallèle, un travail vraiment avec une psy. Et si tu veux, ça a été génial parce que ce sont des choses qui sont arrivées un peu au même moment dans ma vie. Et en gros, si tu veux, par rapport à cette notion de procrastination, déjà, j'ai vraiment capté que la temporalité des choses est parfaite. Ça, c'est plus une expérience purement mystique que j'ai vécue, où j'ai vécu à mes 37 ans une expérience assez dingue, où j'ai vécu un rebirth. Et dans ce rebirth, je me suis vue projeter des choses, des informations qui venaient. Et en gros, ce qui m'a été montré, c'est tout est parfait et la temporalité est parfaite. Donc, j'étais vraiment plongée dans une espèce de plan divin où je voyais que ce qui n'avait pas été fait jusque-là, c'était normal. Et que, en l'occurrence, je me souviens que ce jour-là, c'était une semaine avant une rencontre avec mes élèves. Et je culpabilisais énormément parce que je me disais, mais quand même, j'ai toujours pas fait le discours que j'ai envie de leur faire. J'ai toujours même pas réfléchi à ce que je vais leur raconter ce jour-là. Enfin, à un moment donné, je veux dire, on y va, quoi, Lisa, c'est 7 jours quand même. Et en fait, non, parce que justement, ça m'a montré que j'avais besoin de vivre cette expérience pour être en capacité de savoir qu'est-ce que j'allais leur raconter ce jour-là. Et si j'avais préparé le discours un mois avant, bah, j'aurais dû tout transformer, en fait, parce que cette expérience m'a changée. Et en gros, parallèlement à ça, si tu veux, ça m'a... Il y a quelque chose qui a changé en moi depuis. C'est difficile de l'expliquer, parce qu'encore une fois, ça vient en arborescence, mais c'est, dans un premier temps, comme tu le dis très bien, si on commence tout de suite à essayer de gagner en productivité, gagner en efficacité, gagner en organisation, on va dans le mur. Mais c'est sûr, si on n'a pas été déjà connecté à cette notion d'état de flow et au fait que oui, organiser, oui, planifier, oui, poser des intentions, oui, avoir une vision, c'est hyper important. Mais à ça doit s'ajouter une forme de flexibilité corrélée à notre fonctionnement interne et à notre capacité à nous sentir. Moi, typiquement, par exemple, la semaine dernière, j'avais prévu d'enregistrer 2 podcasts. En solo. Ben, je ne l'ai pas fait. Je l'avais prévu, mais en fait, j'ai commencé à être portée par d'autres choses. Dans ma créativité, il y a d'autres choses qui sont apparues, il y a d'autres priorités qui sont apparues et je sentais que ce n'est pas mon moment. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je le décale. Et ce n'est pas je le supprime, mais c'est juste je le décale parce que maintenant, je me connais et je respecte cet état de flow. Et je pense qu'il y a et c'est clairement la grosse, grosse, grosse difficulté dans notre monde. Tu vois, il y a un très bon exemple par rapport à ça, c'est les femmes et leur cycle.
Ouais.
Quand t'es en jour, quand t'as tes lunes, quand t'es du jour 1 au jour 5 de ton cycle, clairement, c'est pas là que c'est le bon moment d'aller faire un business plan, d'aller penser à ta compta et d'aller soulever des montagnes. Par contre, tu vas faire ça une semaine après, tu vas avoir l'énergie d'un warrior. Et en fait, en plus de cette notion cyclique qu'on a nous les femmes, je trouve qu'il y a aussi cette notion cyclique par rapport à notre énergie, notre état de flow. Et pour ma part, de comprendre comment je fonctionne.
Et c'est un rapport en plus avec les neuroatypies.
Je ne suis pas étonnée. Et en gros, si tu veux, je trouve que d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir comment on fonctionne, de se dire, OK, là, en fait, je lâche. Je sais qu'aujourd'hui, la to-do que je m'étais mise, ça ne va juste pas le faire. Mais par contre, je sais, parce que je me connais, que dans mon énergie, à un moment donné, ça va revenir. Et là où je me reconnais aussi dans la neuroatypie, c'est que moi, j'ai le portail intergalactique de la créativité qui arrive à 22h45. Tu vois,
ouais.
Quand je passe ce portail, là, je peux être inarrêtable et c'est ce qui peut faire que je me couche plus tard. Mais c'est, tu vois, pendant des années, je me suis conformée. Se coucher tôt, se lever tôt, le cycle circadien, etc. etc. Et j'apprends aussi à voir tous les endroits dans ma vie où je me suis suradaptée et à trouver cette voie du milieu entre me laisser complètement aller, ce qui peut des fois aller dans des extrêmes parce que du coup, tu dors plus, tu es dans une insomnie parce que tu es dans... Voilà, de l'hyper-créativité à minuit, à un moment donné, bon, bah, ça ne fonctionne plus. Mais d'essayer quand même de lâcher de lâcher l'hyper-contrôle et de se laisser vivre, en fait. Et c'est hyper challengeant. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense, en tout cas, moi, je n'ai pas la solution parfaite aujourd'hui parce qu'en effet, on a une société on est conformé de A à Z, il y a des horaires... des horaires de travail et des horaires pour l'école des gamins, etc. Et en même temps, c'est juste peut-être mettre de la conscience là-dessus pour parfois sortir de cette culpabilité de dingue, de se dire « je ne suis pas efficace comme je voudrais ». Ouais. Je suis pas productive comme je voudrais. Je suis pas dans l'accueil émotionnel à chaque instant. Bah parce que non, en fait, à un moment donné, on pète un câble parce que on essaie de mettre des ronds dans des carrés, comme tu le dis.
Ouais.
Et tu vois, je suis tout à fait d'accord. C'est un, se connaître, s'observer, voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous ou pas. Moi, je suis convaincue que de passer du temps seul aide énormément. C'est-à-dire que vous soyez célibataire, en couple, père ou mère de famille, que vous bossiez dans une entreprise ou vous soyez indépendant, octroyez-vous des jours seuls dans l'année. Pour moi, c'est juste fondamental et je trouve que ça m'a fait un bien de dingue parce que c'est des moments où je retrouve en fait mon rythme. C'est des moments où j'ai le temps d'écrire, j'ai le temps d'observer, j'ai le temps de poser les choses. Et à chaque fois que je rentre de ces moments que j'ai passés en solo, il y a quelque chose qui change dans ma vie. Et avant même, je me fais targeter à fond sur Instagram, procrastination, TDAH, machin, bidule. Et en fait, non, je vois bien, enfin, ça sert à rien parce que le problème, il n'est pas là, en fait. Et moi, il y a un sens à la procrastination où là, on pourrait aussi ajouter le côté, puisqu'on parle de ça, le côté, est-ce que ce que tu es censé faire, c'est vraiment quelque chose qui résonne encore aujourd'hui pour toi? Bon, podcast procrastination pour une autre fois, mais il y a plein de choses qui pourraient expliquer ça au-delà de cette neuroatypie. Mais ouais, ça me parle énormément.
Souvent, les personnes neuroatypiques, elles sont vraiment bloquées dans leur mental. En fait, elles mentalisent énormément. D'autant plus, par exemple, les personnes autistes qui, elles, ont appris, en fait, alors ça, on s'en rend pas compte, hein, mais par exemple, les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, en fait, ils vont apprendre des situations en les regardant et ils vont se faire comme une sorte de catalogue dans la tête. Donc, dans telle situation, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc, tout est mentalisé, en fait. Tout. Mais en général, les personnes neuroatypiques, elles passent beaucoup de temps dans leur tête. Et vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de redescendre, d'avoir une activité qui permette de redescendre dans son corps, d'avoir conscience de son corps. Ça, c'est ultra important. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien. Donc, ça peut être du sport. D'autant plus que le sport, ça va, enfin, une activité physique. D'autant plus que ça va avoir un impact, par exemple, pour le TDAH, sur la dopamine. Donc on parle beaucoup de la dopamine qui n'est pas la seule incriminée dans le TDAH. On n'a pas parlé des causes de ces différents troubles, mais donc ça va avoir un impact. C'est vraiment important, en fait. On se rend compte que généralement, quand on a ces activités comme ça, de retour au corps, quelles qu'elles soient, donc par contre, ne faites pas des activités qui ne vous plaisent pas. Ça, ça ne sert à rien. Vous ne forcez pas parce que vous avez vu que je dis le yoga comme ça, mais c'est super. Bah, peut-être que vous, ça ne va pas vous plaire et peut-être que vous, ça va être le pilates ou ça va être la course à pied. Enfin, j'en sais rien, mais ou que ça va être la poterie ou le truc comme ça. Mais vraiment, c'est important d'avoir une activité de retour au corps, d'avoir ces sensations. Moi, c'est généralement ce que je fais en séance beaucoup. Je fais redescendre les gens pour qu'ils ressentent dans leur corps ce que ça leur fait, telle ou telle situation. Sinon, c'est des personnes qui sont bloquées dans leur tête et ça fatigue en plus. Donc, il y a une grande fatigabilité de ces troubles. Ça, c'est pas... tu parlais là, que tu disais que j'ai pas fait les deux podcasts que je voulais faire. Il y a un truc aussi, c'est quand on apprend à se connaître, on apprend aussi, donc en tant qu'entrepreneuse, à voir... à prendre conscience qu'en fait, on fonctionne différemment et que ça peut apporter de la fatigue. La fatigue, elle est extrêmement sous-estimée dans les troubles du neurodéveloppement, dans les neuroatypies. Par exemple, moi, je sais que je ne peux pas faire plus de 2 rendez-vous par jour. Donc, il faut que je trouve... ça peut avoir des conséquences financières, du coup. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Il faut vraiment voir comment on peut fonctionner. Cela dit, moi, j'ai la chance d'être entrepreneuse. Il y a des gens qui sont salariés. Ça peut être beaucoup plus compliqué de pouvoir s'économiser, etc. Mais bon, voilà, ça pourrait prendre des heures de parler de tout ça. Mais voilà, redescendre dans son corps, bien se connaître, prendre son temps. Ce genre de choses.
Ça me parle. Et tu vois, pour ma part, dans ce qui m'aide énormément, et je le vois aussi, c'est que tu parlais de descendre dans le corps et je suis... convaincue de ça pour tout le monde de manière générale, oui, d'autant plus dans le cas de neuroatypie. Et je vois tellement la différence sur moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à intégrer assez intuitivement plein de choses différentes, que ce soit du kintsugi, que ce soit de la poterie, ou c'est pas quelque chose que je fais de manière hebdomadaire, mais une fois tous les 2 mois, je me fais un atelier parce que d'un coup j'ai envie de faire ça. clairement l'acro-yoga. En fait, je diversifie un max entre le yoga, l'acro-yoga, le HIIT, la boxe. En fait, j'ai besoin de diversité, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer et la notion de plaisir est ultra importante. C'est-à-dire, je vais vraiment dans les choses qui m'apportent du plaisir. Et c'est pourquoi aussi, j'essaie de choisir des activités qui sont flexibles pour moi. Parce que dans mon fonctionnement, je peux être en mode autiste à me dire, je m'enferme 10 jours dans ma grotte et je bosse juste sur un projet pro parce que je suis dedans. Et une fois que je suis dedans, c'est là, en fait, que j'ai la pelote qui se déroule. Tu vois, cette idée m'amène à une autre. Et c'est comme ça que j'ai conçu IG Nutri, où j'ai été prise là-dedans. Et j'ai besoin de mettre toute mon énergie, tout mon intellect sur ce truc pour tirer le meilleur, en fait. Mais par contre, quand je sors de la soupape, donc déjà, je faisais du sport tous les jours, ça c'était nécessaire, mais je me rends vraiment compte de la différence au niveau de mon énergie, de mon sommeil, de mon bien-être, de ma créativité, que de redescendre dans le corps, de faire des pratiques. Moi, je médite beaucoup en dansant, en fait.
Ouais.
La méditation en bougeant, pour moi, ça m'aide énormément. Je suis convaincue qu'en tant que femme, ça fait d'autant plus sens aussi. Mais je varie le max d'activités et en fait, de me lâcher la grappe sur « non, là, en fait, j'ai pas envie de faire ça ». C'est ce rituel à faire tous les jours. C'est 20 minutes assis sur un poussin. C'est mon cours de yoga toutes les semaines. Non, en fait, je préfère m'acheter une carte de 20 leçons que je peux faire quand je veux, dans telle classe, dans telle chose, dans telle bidule, et j'adapte selon mon ressenti et mon besoin du moment. Mais par contre, je sais que quoi qu'il arrive du mouvement, il y en aura. Que du moment pour rigoler, pour aller mater un film, pour aller voir les copains, il y aura. Qu'un moment purement créatif, soit de peinture, soit d'aquarelle, soit de poterie, soit il y aura. Parce que c'est ça, en fait, qui me fait du bien. Et ça m'a apporté beaucoup d'équilibre. Et c'est ça, en fait, tout à l'heure aussi, sur quoi je voulais rebondir, c'est que tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, j'ai l'impression aussi que ce trouble-là, chez moi, c'est hyper aggravé, notamment par rapport à des symptômes TDAH.
Ouais.
Hyper aggravé avec cet objet. C'est-à-dire que, je montre mon téléphone, pas la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans de ça, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'étais un peu anti-téléphone, j'étais en mode, moi si je peux me barrer 3 jours sans mon téléphone, ça me va très bien. Et en fait, j'avais vraiment une aversion pour les réseaux sociaux, ce genre de choses.
Ouais.
Et je me suis lancée parce qu'il y a eu cette mission, genre pour démocratiser, va falloir te lancer. Et je me rends bien compte que l'usage des réseaux sociaux... Plus, en fait, les années ont passé et plus j'ai été présente sur les réseaux sociaux, plus j'ai vu ma capacité de concentration et de focus fondre comme neige au soleil. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Et je pense qu'au-delà de tout symptôme, en tant qu'humain, on est tous concernés par ça. Et pour ma part, ce qui m'a aidée, du coup, je le partage ici, c'est que j'ai fait des plages très strictes, en fait, maintenant, à la fois sur... me dire j'ai 90 minutes, 120 minutes max de travail intensif et quoi qu'il arrive au bout de ces 2 heures, je me lève, je sors, je vais boire un thé, je vais faire 10 pompes, je vais mettre sur mon trampoline, je fais autre chose et je me crée des créneaux autant que possible, même si c'est un créneau qui est à 22 heures parce que c'est des moments où je me couche très tard ou autre, mais j'ai ce créneau en mode c'est là que je suis sur le téléphone et j'ai vraiment une minuterie parce que de faire ça de manière, il y a un espace pour VS, je prends mon téléphone quand je veux, je me laisse embarquer. Clairement, ça a été un game changer sur mon niveau d'énergie, ma santé vraiment cérébrale, dans le sens cognitif, par rapport à la mémorisation, la concentration, le focus, et par rapport à mon sommeil également.
Ouais.
Je ne sais pas si toi, tu as pu voir ça aussi.
Alors, en fait, si tu as un profil TDAH, si tu veux, les outils technologiques... Parce que ça dépend vraiment, quand on dit les écrans, ce n'est pas assez précis, parce que tous les écrans n'ont pas le même impact. Ce qu'il y a, c'est que quand tu vas regarder, quand tu vas scroller sur ton téléphone, selon ce que tu regardes, ça va faire augmenter ton taux de dopamine. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on dit que... il y a des études qui sont en cours là-dessus. Ça, ce serait aussi pour ça qu'en fait, les personnes donc avec TDAH seraient autant intéressées par ces outils technologiques. Parce que ça va vite, etc. D'autre part, alors, oui, en effet, Je pense que ça dépend des personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont vraiment être gênés par ça, d'autres non. En tout cas, on voit qu'il y a une appétence pour les outils technologiques de la part des personnes neuroatypiques, notamment TDAH et TSA. Pas pour les mêmes raisons, TSA et TDAH. Mais en tout cas, là, il y a des études qui viennent juste de sortir par rapport à ça sur les enfants. Et donc, en effet, ça peut être intéressant de mettre, de vraiment mettre une minuterie, comme tu dis, pour voir... Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir conscience, en fait. Pardon, d'avoir la conscience de conscientiser combien de temps on passe, etc. Si comme tu l'as dit, ça te pose un problème. Il y a des personnes qui vont pas, à qui ça va pas poser de problème, mais je pense que c'est des personnes peut-être qui vont pas passer leur journée dessus. Par contre, c'est clair que on se rend compte, une personne qui est TDAH, elle peut très bien prendre son téléphone et d'un coup reprendre conscience, et ça fait 3 heures qu'elle est dessus, et qu'elle a regardé juste des trucs comme ça, scroller, et avec ce sentiment, cette impression, de ce mal-être en fait. Et là, c'est vraiment, là, je pense que c'est vraiment important de faire quelque chose quand on ressent ça. Donc toujours pareil, vraiment par rapport à son ressenti, quand on a passé je ne sais combien de temps sur son téléphone, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'en... Enfin, je me sens mal quoi d'avoir fait ça. Physiquement, on peut le ressentir. Hein. Bah là, vraiment, ouais, je pense qu'il y a des petites, il y a des petites applis là, qu'on peut utiliser justement pour voir combien de temps ça bip quand on est à tant de temps, etc. Alors, est-ce que ça aggrave ? Parce que c'était un peu le sens de ta question, non ? Est-ce qu'il y a des impacts sur la gravité des troubles, tout ça ?
C'est ça, je me questionne ouais. Sur est-ce que ça aggrave ? Et surtout, est-ce que ça peut faire que même une personne qui, à la base, n'est pas dans cette sphère neuroatypique, peut voir son non. Niveau d'attention et non.
Ah. Alors, non, en fait, le TDAH, le TSA, etc., ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Les écrans, alors je sais qu'on a dit beaucoup ça, les écrans ne donnent pas, ne rendent pas autistes. Ne rendent pas, voilà, ne provoquent pas un trouble du déficit de l'attention. Après, est-ce que ça peut avoir alors, des influences sur les niveaux d'attention ? Sincèrement, il y a des études qui sont en cours là-dessus. On peut pas. C'est vraiment un sujet qui est pas encore assez documenté en fait. Donc tout ce qu'on va voir de très alarmiste, notamment chez les enfants, il faut savoir quand même. Et c'est important hein, parce que moi j'ai pas du tout l'avis qu'on voit beaucoup dans les médias. En tout cas, enfin j'ai un avis un petit peu qui diverge un peu. C'est très alarmiste en fait, et je pense que ça, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est grave, et on ne sait pas si c'est pas grave. Enfin, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, tu sais, ces titres, tous crétins, etc. En fait, ce n'est pas avéré. Hein. Tous les trucs. Alors, pour le coup, moi, quand il y a ce genre de choses, j'aime bien les lire. Je vais lire et je regarde les sources. En fait, ce n'est pas, pas basé sur des études qui sont fiables. Déjà quand on voit des études où il y a écrit les écrans, c'est pas fiable, parce qu'en fait une télé, c'est pas comme un téléphone, c'est pas comme une tablette, c'est pas comme un ordinateur, ça n'a rien à voir, les impacts ne sont pas les mêmes. En fait, ce que ça fait, c'est que ça met de la pression sur les gens, et qu'ils peuvent pas se dépatouiller avec ça, parce que c'est un problème systémique en fait. Donc du coup voilà, le problème il reste là, et ça n'arrange pas les choses, et on n'a pas de solution réelle. En tout cas, est-ce que ça donne un TDAH ou un TSA ? Non, ça ne donne pas. Quel est l'impact réel ? On ne sait pas vraiment. Ça a certainement un impact, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait, donc tout ça, c'est l'épigénétique, hein. Tout ce qu'on fait, ça a un impact sur notre cerveau. Là, ce qu'on est on est en train de parler, ça a un impact, tout. Donc, ça a nécessairement un impact.
Oui, en fait, c'est hyper intéressant parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est plus... Ça vient révéler quelque chose qui est déjà là. Ça vient aggraver, ouais. Ça vient mettre en lumière quelque chose qui est déjà présent. J'ai un ami aussi qui est très présent sur les réseaux sociaux qui me disait, on m'a diagnostiqué TDAH. Oui,
c'est ça. En fait, on ne sait pas.
Je me dis, mais évidemment, voilà. Mais c'est vrai que ça...
C'est la poule et l'œuf. On ne sait pas qui, de la poule ou de l'œuf. En fait, là, les dernières études, ce qu'elles tendent à montrer, c'est que, par exemple, les personnes autistes vont avoir plus d'appétence pour une tablette, un enfant autiste. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde extérieur va être plus compliqué. Donc, est-ce que c'est vraiment son fonctionnement ou est-ce que c'est parce que le monde, les communications vont être plus compliquées? Donc, du coup, il va, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça leur fait, ça leur apporte, ça leur fait du bien quand même. Hein. Il y a, parce qu'il y a, un intérêt aussi hein, dans les outils technologiques. Donc, et oui, après, c'est pas étonnant. C'est comme, par exemple, on dit que dans la Silicon Valley, il y a énormément de personnes TSA et TDAH. Et en effet, on va voir plein de gens qui ont beaucoup de créativité, etc. Donc, mais on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est parce qu'il y a les enfin, on ne sait pas quel est le début.
C'est ça, ça me rappelle, j'ai lu un article aussi où il y a une boîte française, Outils Consult, qui est une boîte de consulting en informatique, ce genre de choses. Et en fait, ils s'entourent de personnes souffrant de TSA. Tu vois, ouais. Toute leur équipe, ce sont des personnes autistes ou souffrant de TSA parce qu'ils disent qu'ils sont même en capacité de voir des erreurs que des algorithmes ne voient pas. Parce ouais. qu'il y a cette prédisposition-là. Donc oui, ça fait hyper sens et je pense que tout est une question en fin de compte de mesure. Et qu'il n'y a rien à bannir et que c'est, encore une fois...
De toute façon, c'est là. Hein.
Ouais, c'est...
En fait, le problème, c'est qu'on va, voilà, on va dire qu'il faut bannir, c'est pas bien, etc. Mais en même temps, on va te, on fait rien pour que... Alors que ce serait facile, hein, si on n'en veut pas. Si le système n'en voulait pas, ce serait très facile. Donc, bon, bah là, on va toucher aussi à mes autres intérêts spécifiques qui sont les luttes contre les oppressions, le capitalisme, etc. Mais voilà, il y a vraiment cet impact-là, hein, de toute façon. Du coup, les outils technologiques, voilà, c'est extrêmement compliqué. Le sujet, il est compliqué parce que on sait pas vraiment. On peut faire des suppositions, mais en même temps, on va pas tous être pareil par rapport à ça. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, mais donc tu n'y joues pas. Moi, j'y joue et j'adorais ça et je pouvais passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Et toutes les personnes qui sont neuroatypiques vont pas le faire, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui le font. Et il y a eu des de neuroatypiques qui adorent ça. Et il y a eu des études sur les jeux vidéo, alors qu'on disait que c'était très nocif, des études scientifiques pour le coup. Et en fait, on s'est aperçu que ça développe énormément de choses. Il y a un seul bémol par rapport aux jeux vidéo, mais ça, on s'en douterait, c'est le sexisme qui est très présent dans les jeux vidéo. Mais sinon, tout le reste, ça développe énormément le raisonnement, la logique, enfin plein de choses, tu vois. L'attention, ça peut paraître paradoxal.
Ouais, en effet. Oui, tu après, vois j'ai envie de dire, tout dépend des jeux vidéo, parce qu'à l'époque, j'en ai connu ouais. certains, c'est ultra violent, c'est ultra...
Mais même, en fait, on s'est aperçu dans ces études, ce qui ressort, c'est que c'est pas parce que c'est violent que c'est ce qu'on disait à un moment donné, qu'après les gens étaient violents. Pas du tout. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est pas un comment on appelle ça, un truc de cause à effet là. Pas du tout. Moi, ouais.
C'est vrai qu'en effet, j'ai cette croyance là aussi dans la mesure où notre cerveau fait pas la différence entre le réel et l'irréel d'une certaine manière sur
oui.
le plan. Bien sûr qu'il a conscience que c'est un écho
oui.
qu'il est en train de jouer. On est d'accord, mais tu vois, qu'il y a dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect énergétique ouais. qui se joue, tu es en train de buter des gens, enfin, tu vois.
Bien sûr.
Et,
ouais.
et en fait, il y a cet aspect-là qui, moi, clairement...
Complètement.
C'est cata. Enfin, certains jeux sont cata pour ça. Mais après, tu vois, je pense, quand j'étais ado, je jouais beaucoup à des jeux de stratégie. Age of Empires, pour ceux qui connaissent. Et oui, je pense que c'est presque des jeux éducatifs parce que tu apprends vraiment à penser de manière stratégique. N'empêche qu'il y a quand même des histoires de guerre et de trucs. C'est pas aussi violent que d'autres jeux, mais
ouais.
Mais oui. Je comprends. Je pense qu'en effet, en réalité, de toute façon, on est dans un monde qui change à vitesse grand V.
Ouais.
Là, on en est vraiment. Aujourd'hui, les articles, c'est même plus une question d'écran. C'est on devient des artistes sans âme parce que c'est l'IA qui pense tout à notre place. Et
est-ce que c'est vrai?
Voilà. Et en fait, exactement. Et en fait, si tu veux, c'est ça. C'est l'idée. De se dire de toute façon, on est dans un environnement qui est celui qu'il est. Il y a 20 ans de ça, c'était tu n'as pas privé ton gamin du McDo, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais disons que c'était la problématique majeure.
Ouais.
Tu n'as pas privé ton gamin d'un McDo, de toute façon, tôt ou tard, il va y aller, donc c'est une question de mesure. Et c'est vrai que je trouve hyper intéressant de se dire bah, on est dans un contexte hyper connecté, avec plein de genres d'écrans différents. C'est ce dans quoi baignent nos enfants, les nouvelles générations.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on peut en tirer profit? Comment
c'est
on peut
ça.
Se protéger des dérives autour de ça? Et comment nous, en tant qu'humains, bah, on peut mettre un peu plus de lumière sur le fait que bah, on n'a pas juste un mode de fonctionnement.
Ouais.
Aujourd'hui, pour moi, en fait, on a tous était toujours différent, mais aujourd'hui, on commence à mettre des étiquettes et à mieux comprendre à travers ces étiquettes qui, bien sûr, peuvent être limitées, mais quand même à comprendre, à dire « Ah, bah moi, je fonctionne plus comme ça », ça nous donne des clés, en fait.
Oui, tout à fait.
Je trouve en effet très intéressant de se dire, bah, dans le contexte de vie que moi, j'ai, et chacun peut parler pour soi, comment est-ce que je fonctionne et comment je peux adapter ça, le but étant juste de, bah, d'être plus apaisé, d'être plus heureux, de plus se lâcher la grappe, de plus se dire, de plus se connaître, en fait.
Tout à fait.
Voilà, ouais. On peut faire du coup des choix plus conscients aussi.
Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. Souvent, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des gens qui vont lutter pour des choses où, en fait, on ne peut pas lutter. On n'a pas la main sur certaines choses. L'idée, c'est d'aller travailler sur des choses sur lesquelles on a le pouvoir et c'est juste sur nous. Et par exemple, par rapport aux écrans, ils sont là. Donc, autant savoir comment on peut cohabiter, comment on peut faire pour que ça se passe au mieux. Moi, tu as utilisé les termes, enfin, le se sentir bien, etc. Pour moi, par exemple, quand j'accompagne des gens, vraiment, ce que j'écris, c'est moi, je vous accompagne à vous sentir bien. Pour moi, déjà, si j'arrive à que vous-même, vous trouviez, en fait, comment vous sentir bien. Déjà, j'arrive à ça, c'est, je trouve ça génial parce que pour moi, c'est vraiment la base. Et il y avait un truc, ce que tu viens de dire là, parce que tu as parlé d'étiquette, et une chose que je souhaiterais préciser par rapport à ça, c'est que souvent, quand on parle de diagnostic, etc., des neuroatypies, ou quand on en parle, juste on dit « Ah mais non, mais j'ai pas envie de me mettre une étiquette, etc., d'être mise dans une case. » Pour moi, ce qui met dans une case, c'est de penser qu'un diagnostic, ça met dans une case. En fait, pour moi, mettre une étiquette, ça, une case, peu importe, ça fait partie de la connaissance de soi. C'est nous-mêmes qui avons la main sur ce qu'on fait. On peut très bien l'enlever, l'étiquette, on peut sortir de la case, mais en tout cas, ça peut être un passage pour bien se connaître et pour mieux se connaître. Et ce qui est enfermant, c'est les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire de penser que ça va nous mettre dans une case. À mon sens, c'est ça qui enferme. Mais personnellement, moi, au contraire, ça m'a apporté vraiment plus de connaissances. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, du coup, quand je l'ai su, j'ai repassé un peu ma vie. Mais en effet, tu vois, tu retraces ta vie à travers ce prisme. Tu comprends des choses que tu n'avais pas vraiment vues. Et je trouve que ça, c'est intéressant.
Ouais, bah ouais, tout à fait. Alors, pour terminer, est-ce que tu as des ouvrages, des articles, des choses que tu pourrais nous partager, que je pourrais mettre en descriptif de cet épisode? Parce que voilà, pour les personnes qui peut-être découvrent ça ou qui ont envie d'aller plus loin, tout simplement, parce que je pense que si elles ont cliqué sur Neuroatypie, c'est que peut-être elles disent « Ah tiens !» Donc, ouais, je pense que ça pourrait être chouette d'avoir tes sources. Et je sais qu'il y a quelques ouvrages qui peuvent exister là-dessus, mais français, je ne sais pas. Donc, hyper preneuse de ça.
J'en ai quelques-uns parce que je suis assez sélective, moi, sur sur ce qu'on trouve, sur les bouquins, etc. Alors, pourquoi ? Parce que je suis assez sélective parce que je suis psychopédagogue, donc j'accompagne les parents, j'accompagne les enfants, et que moi, mon moyen, c'est la non-violence éducative. Et donc, il faut vraiment que ça passe ce prisme. Donc, en fait, je ne conseille pas de site de bouquins où, en fait, il y a des moyens de coercitifs, etc. Mais après, oui, c'est important, je trouve, il y a des sites vraiment... Alors, moi, j'aime bien les sites plutôt canadiens, qui sont quand même un peu plus... il y a déjà beaucoup plus d'infos mises à jour, etc. Et je te donnerai... Ouais, j'ai des bouquins aussi qui sont bien, notamment sur l'autisme au féminin, parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir vraiment la spécificité. Parce que sinon, on peut ne pas se retrouver dans certaines caractéristiques.
Génial, bah merci. Merci beaucoup, en effet, parce que tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu as parlé de l'addiction et j'avais regardé des interviews d'hommes qui disaient le côté addictif, en effet, parce que c'était besoin de se surstimuler pour tenir par rapport à tout ce qui se passait dans leur tête. Et je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans. Et en effet, après, j'ai appris et je confirme que c'est quelque chose qu'on retrouve davantage chez les hommes que chez les femmes. Donc, d'avoir en effet différentes sources qui parlent de ça de manière générale, mais aussi par sexe, ça peut être très intéressant. Donc, merci. Merci pour ça. Bah, écoute, Marjorie, vraiment, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé.
Avec
ça
plaisir.
Ça éclaire nos lanternes. Et puis, voilà, l'idée, c'était de pouvoir, dans ce podcast, dans cet épisode, aller explorer quelque chose sur lequel j'ai pu mettre un nom, sur des confirmations de ce que je ressentais, en fait. Et ça m'a permis de me dire, OK, en fait, je ne suis pas toute seule, et surtout d'aller plus loin. Pour moi, c'est, j'ai mon mode de fonctionnement à moi, et c'est venu élargir, en fait. C'est venu ouvrir des espaces et qui m'aident énormément dans mon quotidien en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'amie, en tant que, qu'amante, en tant que tout, en fait.
Ouais.
Donc, et je pense peut-être un jour en tant que mère. Donc, merci pour ça.
Avec plaisir.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, Marjorie ?
Alors, moi, je suis sur les réseaux, tu veux dire ? Oui, ouais.
Par exemple, sur les réseaux, mais même, tu vois, c'est un site ou autre.
Ouais. Alors, sur les réseaux, je suis sur Instagram. Donc, Marjorie, TDAH, TSA et compagnie, avec le tiré du 8, là, entre tout. Sinon, je suis aussi sur Facebook. Je sais même plus comment je m'appelle sur Facebook, mais ça, c'est à mon nom, de toute façon, Marjorie Bessaï, mais je pense que tu le noteras. J'ai un site internet qui, pour l'instant, s'appelle encore holistiqueessentiel.com. Avec un C à ciel, qui va reprendre mon nom. Et voilà, sinon, moi, je suis basée dans le Vaucluse. Et donc, je fais un peu de présentiel, mais je fais surtout du visio. Donc, voilà, je consulte vraiment en visio partout.
Génial.
Voilà, je vais à Paris aussi beaucoup, très souvent.
Ah, très bien, bon, ça
ouais.
va.
Ouais.
Bah, merci infiniment pour.
Bah, merci à toi ensemble, pour l'invitation. Merci avec beaucoup.
Et puis, ben, tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre attention. Pensez à mettre une note sur ce podcast ou à le commenter si vous êtes sur Spotify. Vous pouvez aussi poser vos questions directement sur Spotify. Prenez bien soin de vous comme toujours. Marjorie, prends bien soin de toi.
Vous aussi, merci.
Ciao.
Ciao.